Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et sur le 91 à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. Comment faire le point sur sa vie et ses rêves quand on n'a que 15-17 ans? Une première émission sur ce sujet a eu lieu le 1er de ce mois. Vous pouvez l'écouter sur notre site. Et en ce mercredi 15, j'accueille de nouveau Isabelle Servant, auteure d'un livre de développement personnel pour les jeunes intitulé « 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves ». Bonjour Isabelle.
Bonjour Annick.
Alors Isabelle, les livres de développement personnel pour les ados et les jeunes sont assez rares. Comment expliquez-vous cette lacune?
Ben, je ne sais pas. Oh, non, je ne sais pas. En fait, je sais. J'ai des pistes. C'est pas que je ne sais pas, c'est que je le regrette, en fait. Je ne sais pas, n'est pas le mot approprié. En fait, je crois que simplement, effectivement, il y a pléthore de livres de développement personnel pour les adultes. On ne sait même pas lequel choisir tellement il y en a. Il y a vraiment une réelle demande. Je pense qu'il y a une demande aussi au niveau des jeunes, mais les éditeurs, en tout cas moi, mon éditeur me faisait remarquer que ce sont les parents qui achètent les livres et non pas les jeunes. Donc déjà, il faut d'abord satisfaire l'envie des parents et peut-être n'ont-ils pas, ne se pose-t-il pas cette question-là pour les jeunes? Par ailleurs, c'est vrai que le livre est souvent un support qui est peut-être un petit peu moins actuellement adapté aux moyens d'apprentissage et de communication des jeunes qui préféreront largement la vidéo ou les applications sur smartphone. Mais il y a de toute évidence, et vu le succès que rencontre le livre, qui vraiment dépasse tout ce que je pouvais imaginer, c'est qu'il y a vraiment une demande au niveau des ados qui sont vraiment, ou des jeunes, et des moins jeunes de manière générale, mais vraiment des jeunes qui se posent des questions de sens. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je peux faire? Comment être heureux? Et qu'est-ce qui me rendra heureux, en fait? Il y a vraiment une demande qui est gigantesque.
Ouais. Mais comment expliquez-vous qu'il soit si difficile pour de nombreux jeunes de trouver leur voie?
Alors j'avais évoqué dans la première émission, je vais le réévoquer parce que je pense que c'est important. À mon sens, il y a notre système scolaire en France est relativement uniforme puisqu'il propose à tous les enfants d'apprendre la même chose au même rythme partout où ils sont en France, puisque c'était notre volonté, je pense, d'être égalitaire, sauf que nous sommes tous différents et que dans ce parcours uniforme, on évalue en retour uniformément les enfants alors que on est tous différents. J'adore cette citation de cette référence d'Albert Einstein, non, c'est pas pour le citer lui, mais j'adore, c'est « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. » Et effectivement, c'est vrai, vous prenez ce petit poisson, vous lui grimpez à un arbre, c'est pas possible. Il pourra pas non plus voler, il pourra pas non plus courir. Son élément, c'est l'eau. Et d'ailleurs, il y a actuellement un expert en la matière qui s'appelle Ken Robinson, très connu dans le domaine de l'éducation, qui dit que votre élément, vous avez un élément, j'ai un élément, et cet élément, il est à la convergence de nos passions et de ce qu'on sait faire. Voilà, c'est notre place qui est unique et singulière. Mais pour revenir au système scolaire, effectivement, on a un système scolaire qui est uniforme, qui valorise principalement deux formes d'intelligence. L'intelligence scientifique, logico-mathématique, on appelle, celle de notre capacité à raisonner, et puis l'intelligence linguistique, qui est notre capacité à nous exprimer, à communiquer via voilà, l'expression, les langues, la communication. Donc on oublie déjà toutes les autres formes d'intelligence, notamment si vous avez cette intelligence corporelle, c'est-à-dire avec votre main ou votre corps, si vous êtes particulièrement sportif, bah vous êtes déjà pas vraiment valorisé au niveau de l'école. Et ça représente une grande partie de notre population. Hein. Donc tous ces gens-là, déjà, ne trouvent pas forcément leur place. Ils acquièrent les bases, mais au-delà de ça, être vraiment valorisé pour ce qu'ils sont. Et il y a d'autres, beaucoup d'autres formes d'intelligence qui sont complètement négligées. Donc on ne trouve pas sa place. L'enfant, par ailleurs, est complètement passif par rapport à ce qu'il étudie. On ne lui donne pas le choix. Donc il n'a pas d'orientation, il n'a pas de choix. Contrairement à d'autres pays dans le monde où, au fur et à mesure qu'il grandit, il va commencer à choisir, non pas de manière optionnelle, mais vraiment de manière dans son cursus normal, son cursus normal, pas juste une ou deux options comme ça, les matières qu'il veut principalement étudier. Donc il a une responsabilité parce qu'il a un choix et commence petit à petit à se découvrir. J'ai enseigné, ce qui me vient aussi, c'est que j'ai enseigné pendant 7 ans dans une université américaine et en fait là-bas les jeunes peuvent, au niveau de l'enseignement supérieur par exemple, étudier vraiment plein de choses différentes. Ils ne doivent choisir leur domaine de spécialité que très tard, en fait, en troisième année, donc à bac plus 3. Alors que chez nous, l'orientation, c'est carrément est vraiment déjà décidé. Le choix d'une filière se fait au niveau terminal. Et on sait à l'heure actuelle que les jeunes commencent à réfléchir à leur orientation, principalement en terminale, éventuellement en première. En tout cas, on a plus de 70% qui font ce genre de choix relativement tard, au pied du mur avant de choisir une filière, parce qu'après, les passerelles sont quand même assez compliquées en France, sans finalement se connaître, sans s'être exploré. Donc, le choix est relativement difficile.
Oui. Alors bon, ce système scolaire étant ce qu'il est, qu'on est bien obligé quand même de le subir.
Oui, on peut le faire évoluer, mais oui, actuellement, on fait avec. Voilà. Oui.
quels sont les principaux conseils que vous pourriez donner à ces jeunes?
Alors, pour pouvoir faire des choix, il faut se connaître. Donc, il faut s'explorer. Et je pense qu'il faut... Déjà, ça dépend de quel jeune on parle, parce qu'on est tous différents. Donc, il y a des jeunes, et là, je parle plutôt aux parents, ceux qui ont déjà perdu pied et qui n'ont plus confiance en eux. Il va falloir déjà les revaloriser et leur donner une image positive d'eux-mêmes. Leur montrer que c'est possible et qu'il appartient à eux. Alors là, ce qui serait bien peut-être de faire, c'est de leur donner des modèles inspirant, c'est-à-dire faire référence à des gens qui ont réussi sans avoir réussi forcément à l'école et savoir comment ils ont fait. Donc déjà leur montrer que c'est possible et leur redonner à nouveau confiance en eux. Pour les jeunes qui commencent déjà, qui ont plutôt confiance en eux et qui réussissent correctement, ben, je pense que c'est beaucoup parler avec eux. Et puis après, les accompagner pour vraiment faire l'expérience, parce qu'on peut avoir une vision idéale d'un métier ou d'une orientation, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors, je vais vous donner l'exemple de ma nièce. Il y a quelques années, elle me dit « je veux être styliste ». Très bien, et c'est super. Encore une fois, elle m'aurait dit n'importe quoi, j'étais derrière elle. Par contre, j'ai dit « écoute, si tu veux être styliste, il faut quand même qu'on t'explore ». Donc en fait, je l'ai accompagnée. Je pense que c'est important pour les jeunes actuellement. Ils sont relativement peu autonomes et c'est normal parce qu'on ne les a pas amenés dans cette autonomie en général. Donc j'ai dit « écoute, c'est très bien, mais alors on va aller interroger des stylistes pour voir comment ils ont fait. Et puis ma chérie, si tu veux être styliste, eh bien, il faudrait peut-être que tu commences à avoir un book ». Pour commencer à dessiner, créer tes modèles. Et puis je l'avais, pour Noël, je l'avais finalement abonné à des magazines de mode un peu spécialisés dans le stylisme. Je lui avais acheté un livre pour être styliste, pour qu'elle commence à comprendre les tenants et les aboutissants du métier. Et je pense que c'était une démarche qui lui montrait qu'elle était soutenue et qui lui a permis d'explorer cette voie. Alors depuis, elle a changé et c'était pas grave. Mais en tout cas, elle est passée du rêve à la réalité. Je crois qu'il faut non seulement, même de manière générale, pour vivre ses rêves, il faut non seulement commencer à les définir, mais c'est surtout, il faut en faire l'expérience, il faut passer à l'action. Et puis, c'est un chemin qui se corrige tout au long d'une vie. Les jeunes vont faire sûrement plusieurs métiers dans leur vie, les jeunes de cette génération. Et puis, il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, quelles sont les ficelles pour vivre ses rêves? Comment vit-on ses rêves?
Comment on le chie en l'air? Eh bien, chaque jour, on essaie, en fait. L'essentiel pour vivre ses rêves, je crois que c'est d'essayer de déterminer ce qui est important pour soi et ce qui est essentiel pour soi. Et c'est déjà tout un travail de connaissance de soi, à oser se poser pour aller réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et à partir de là, il va falloir passer à l'action et faire l'expérience de ce que... En faire l'expérience, en fait. La seule façon de vivre ses rêves, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'oser d'accepter de se tromper et de ne pas réussir. J'aime beaucoup, c'est vraiment pour moi la clé de la réussite, je ne la répéterai jamais assez souvent, c'est que si on pense que tout est simple dans la vie, les jeunes pensent souvent que les célébrités c'était une évidence pour eux, c'était facile, mais il n'en est rien. La plupart ont dû faire des efforts, mais qui étaient gigantesques pour réussir. Et ils ont, j'avais donné cet exercice dans le livre de plusieurs personnalités comme Walt Disney, Lady Gaga, il y a Mika aussi. En fait, il y a tellement de gens que l'on perçoit comme quand ils sont en haut du podium, et encore on ne sait même pas si en haut c'est très agréable, on ne connaît absolument rien de leur vie, mais en tout cas elle paraît séduisante parce qu'ils sont reconnus. Mais finalement c'était tout un parcours, donc comprendre que pour réussir il faut accepter de se tromper et d'échouer, mais petit à petit, si on a la persévérance, on se rapproche de cette réussite. J'ai une phrase qui est, pas une phrase, une référence à Walt Disney, parce que en tout cas moi il m'inspire beaucoup, c'est que pour faire financer, déjà Walt Disney quand au début on lui a dit qu'il n'avait pas d'imagination, donc ça c'était clair, donc s'il avait cru la personne qui lui avait dit ça au début, je pense que ça aurait brisé dès le départ une magnifique carrière. Et il y avait encore d'autres personnes, je m'échappe tout de suite, mais à qui on a dit vraiment l'opposé de ce qu'ils sont, parce qu'ils ont été brillantissimes dans leur domaine, mais on leur a fait croire qu'ils n'avaient absolument aucun avenir, tel les Beatles justement, on leur avait dit qu'ils n'avaient aucun avenir dans le show business, parce qu'il y a des aberrations incroyables, donc il ne faut vraiment pas toujours écouter ce que vous disent les gens. Et au niveau de Walt Disney, c'était pour faire financer son premier film, il est allé frapper à la porte de 102 banques. Vous imaginez la persévérance et le courage de cet homme qui a accepté 101 refus. Et c'est la même chose pour la personne Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule. Et on dit qu'il a dû faire 2000 essais, il en a sûrement fait beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, quand un journaliste lui a dit « Comment vous avez vécu les 1999 échecs ?» Il a dit « Mais j'ai pas échoué une seule fois en fait. » J'ai trouvé les 1999 fois qui ne réussissaient pas. Et en fait, c'est vraiment transformer ce chemin de vie en disant « j'apprends à chaque fois que je fais l'expérience et l'essentiel, c'est de me corriger. » Et petit à petit, honnêtement, c'est vrai, si on persévère, on trouvera toujours le chemin de rencontrer les gens qui vous soutiennent, d'apprendre les nouvelles connaissances dont vous avez besoin. Mais c'est une question... vraiment de se dire que c'est encore possible. Et je vais juste partager cette phrase qui dit « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. » Mais souvent, nous passons tellement de temps à regarder la porte fermée que nous oublions celle qui s'ouvre.
itinéraire santé, c'est sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et 91 à Montpellier. Donc c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h et je vous invite à écouter toutes les émissions en podcast sur fmplus.org. Donc aujourd'hui nous retrouvons Isabelle Servent, auteure de 30 jours pour trouver ma voix et vivre mes rêves. C'est une sorte de carnet d'orientation gai et ludique qui invite les jeunes à vivre une aventure qui les amènera à mieux se connaître et à être pleinement créateurs de leur vie. Alors Isabelle, vous avez défini 5 étapes à franchir dans cet ouvrage, de 6 chacune.
6 jours chacune, oui.
Hein, voilà. Ouais. Est-ce que vous voulez nous les présenter ?
Oui, alors c'est un parcours initiatique à la connaissance de soi pour effectivement se raccrocher, se reconnecter à ce qui est important et oser passer à l'action. Alors dans un premier temps, la première étape sur 6 jours, c'est vraiment pour montrer que chaque personne est unique. J'aime bien cette phrase de William Kennedy qui dit « être le premier, c'est bien ». Mais alors là, je vais me tromper dans la phrase. C'est être le meilleur, c'est bien parce que tu es le premier, mais être le seul, c'est mieux parce que tu es unique, en fait. Et donc, c'était vraiment sortir de cette idée de compétition et de concurrence entre chaque personne. Donc, comprendre qu'on est le seul à pouvoir faire quelque chose, mais qu'on n'est pas seul, justement, et qu'on est en lien avec tout le monde et avec le tout, comme une sorte de pièce de puzzle. Une pièce de puzzle unique qui a toute sa place et qui est nécessaire et qui est incontournable, et à chacun de trouver sa place en tant que pièce de puzzle. Donc c'est un parcours sur effectivement 6 jours où on se reconnecte à tout ça. Ça me fait penser à des affiches que j'avais vues dans les écoles d'Islande qui disent tout le monde est bon à quelque chose, personne n'est bon en tout et on est meilleur à plusieurs que seul. Donc c'était un petit peu dans cet état d'esprit à ce que chacun contribue, se voit vraiment avec un regard de bienveillance en tant qu'être spécial et unique dont le monde a besoin et tout le monde a besoin. Donc voilà, il y a plusieurs étapes qui travaillent aussi sur le regard des autres et la confiance en soi et le fait de travailler avec les autres tout en trouvant notre singularité et notre angle unique. Mmh. Et puis dans une deuxième étape, effectivement, là, on commence à réidentifier ou identifier ses atouts et ce qui fait notre potentiel. Donc là, il s'agit de réidentifier les qualités, les forces, nos différentes formes d'intelligence, s'appuyer sur nos valeurs ou réidentifier nos valeurs, voir les gens qui nous inspirent, parce que les gens qui nous inspirent, on ne les a pas choisis par hasard. Ils ont des caractéristiques qui nous touchent, sinon on ne les aurait pas choisis. Donc ils nous apprennent quelque chose de nous-mêmes. Et à travers également nos réussites, on réussit. À la fin, il y a un exercice que je propose qui s'appelle le trèfle. Et donc sur chaque feuille du trèfle, on va mettre ce qu'on a trouvé durant les exercices précédents. Et cet ensemble nous montre une image de finalement nos passions, nos intelligences, nos atouts, ce qui fait cette essence forte de nous-mêmes. Et on a une vision comme ça extrêmement positive de nous, sachant qu'il y a... J'ai laissé une grosse partie du trèfle vide, parce que j'appelle ça les talents inexplorés. Pour moi, nos forces et notre potentiel, c'est une expérience de vie. C'est comme un iceberg, en fait. Surtout pour les jeunes, ils ont trouvé que la partie émergée de l'iceberg. Juste, ils ont découvert certains, les premiers atouts ou talents qu'ils ont, mais il y a tellement de choses, si vous ne l'avez pas exploré, vous ne savez pas si vous êtes bon ou pas. Donc en fait, je voulais leur donner envie aussi d'explorer, parce que tant qu'ils ne le font pas, qu'ils n'essaient pas, ils ne savent pas si c'est bon ou pas, et j'adore leur donner dans ce regard de se reconnecter à leur potentiel. Qui peut dire qu'il n'a pas de talent? Celui qui ne les a pas découverts. Et puis il y a un gros travail aussi qui portera sur les croyances. Est-ce que tu peux réussir ta vie? Alors oui, non, et combien? Et en fait, il n'y a rien qui ne peut prédire l'avenir. Donc si l'enfant n'a pas dit qu'effectivement elle pouvait, c'est qu'il a déjà une croyance extrêmement limitante sur lui-même et sur son potentiel. Donc ça, c'était la partie identifier ses atouts. Et puis après, en troisième partie, ça sera poser ses objectifs et ses envies. Donc faire le point sur sa situation actuelle et puis se reconnecter à ce qui est important pour soi. Donc il y a plusieurs exercices qui nous permettent de faire ça. La quatrième partie sera sur le passage à l'action. Alors là, on va aborder finalement comment se mettent en place les projets, parce que tout est né en général d'une idée. Hein, comment la première phrase c'était d'un des chapitres, c'était si tu penses à la tour Eiffel, quelle est la première étape? Et souvent, on va penser à la construction, et puis finalement, non, c'est une page blanche, parce qu'en fait, il a fallu passer par l'idée, et puis après, petit à petit, de cette idée, il a fallu la matérialiser, la concrétiser. Donc finalement, à partir d'une idée ou d'une envie, il faut savoir comment la concrétiser petit à petit, avec tout ce que ça implique, donc le rapport à l'échec et à l'erreur que j'évoquais tout à l'heure, mais surtout la notion de choix, finalement, vis-à-vis de tout ce qui va nous arriver. À chacun, on ne contrôle pas ce qui nous arrive. On peut essayer de diriger notre vie, mais il y a plein d'impondérables. Par contre, la chose que l'on peut contrôler, entre guillemets, c'est notre réaction à ce qui se passe. Et donc là, je donnais par exemple un exemple absolument non impliquant, mais extrêmement illustrant, qui est « je rate mon gâteau, qu'est-ce que je fais ?» Et là, ça pourrait être, je dirais, je peux facilement déduire que je suis une mauvaise cuisinière, ou alors je peux me dire peut-être que j'ai pas bien suivi la recette, ou je peux peut-être, c'est peut-être pas la bonne recette, je peux peut-être demander à quelqu'un de me conseiller. En fait, il y a toute une série de réactions possibles, de choix par rapport à ce qui nous arrive, et c'est comment passer finalement d'une situation que l'on subit à une situation sur laquelle on peut avoir une forme de puissance et diriger sa vie, vivre ses rêves. C'est quand même être proactif par rapport à ce qui est important pour soi et qu'on a normalement commencé à identifier dans l'étape d'avant. Et enfin, la dernière étape, c'était là pour l'inclure dans un projet plutôt professionnel. Et l'idée, c'était de rappeler effectivement les étapes de l'orientation et puis de ramener sur ce que c'était que de travailler, en fait. C'était important parce que en interrogeant parfois les jeunes, ils ont une vision extrêmement négative du travail, de souffrance. C'était de redonner du sens au mot travailler, redonner du sens à c'est quoi réussir sa vie, en fait. Et puis donner le sens du prix à payer derrière chaque chose. Et il y a le bonheur, mais il y a aussi un prix à payer et il faut en être conscient. Et puis l'inclure petit à petit dans un accompagnement, parce que je conseille fortement d'être accompagné, mais pas forcément par un coach payant, hein, et puis de se former et de se réinventer aussi à chaque fois. Donc c'était tout un guide pratique et méthodologique. Encore une fois, à chaque fois, tous les jours, il y a une petite lecture extrêmement courte, parce que je ne voulais pas que ça soit très long, et puis après, vraiment, on passe à l'action, que ce soit en introspection ou vraiment sur le terrain. Il faut faire l'expérience des choses. Sinon, on ne vivra les rêves, ces rêves, que dans sa tête.
Bien sûr, oui. Et alors, en plus de bons conseils, on y trouve des tas de citations de femmes et d'hommes célèbres.
J'adore ça. Ça m'inspire beaucoup. Ouais.
Voilà. Et puis, vraiment, vous ne nous mettez pas d'encourager votre lecteur. Vous êtes tout le temps dans le positif, on va dire. Hein. On sent que vous l'accompagnez à travers vos exercices. Mais
je crois en chacun, vraiment, sincèrement. Je crois vraiment en chacun et chacun mérite pleinement d'être accompagné et d'être valorisé. Ce que je pense vraiment, c'est que chaque personne est unique, a vraiment un potentiel, mais il faut l'accompagner pour que cette personne, petit écran, révèle son potentiel. Et pour le coup, il y a vraiment des clés. Ça s'apprend, ça s'essaie, ça s'explore. Et puis c'est surtout par ailleurs un chemin.
Oui, oui, oui. Alors ce livre n'est pas une baguette magique. Il faut quand même faire preuve d'un minimum de volonté et d'assiduité.
Assurément, hein. Assurément.
Et en quoi il est important de respecter le mode d'emploi?
Alors, en fait, il s'utilise de différentes façons. Effectivement, il y a des personnes qui font le parcours complet et il y a une logique, effectivement. Il est d'abord important de comprendre à quel point on est unique pour avoir envie de réidentifier ce qu'on est, poser ses objectifs, savoir à partir des objectifs comment passer à l'action et finalement l'inclure dans un projet professionnel. Donc ça, c'est un parcours qui est vraiment logique, d'après moi. Mais certaines personnes le lisent de manière très spontanée, vont chercher la clé ou l'enseignement qui peut leur parler sur le regard des autres, sur la confiance en soi, sur l'erreur et l'échec, sur les formes d'intelligence, y a tellement de domaines que là, voilà. Ils vont chercher juste une clé qui les touche et qui leur parle, et voilà.
Alors justement, vous parlez des intelligences multiples dans ce livre. Vous pouvez nous en parler? Il nous reste 2-3 minutes.
Ok, alors je vais faire très vite. En fait, pendant très longtemps, effectivement, on a vu l'intelligence qui était testée sous forme de quotient intellectuel, le QI, qui était la capacité à raisonner. Et à l'école, ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est qu'on évalue l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique, à notre capacité à raisonner et calcul scientifique, etc. Et puis, en fait, sous l'influence d'un chercheur américain qui travaille à Harvard, qui s'appelle Howard Gardner, en fait, il a commencé à mettre en évidence qu'on ne parle plus d'intelligence au singulier, on parle d'intelligence au pluriel. Lui a dénombré, a compté 8 formes d'intelligence. Je vais vous les citer juste après, mais en fait, on serait tous un bouquet d'intelligence, en fait. On a des intelligences dominantes et toutes les autres un petit peu moins. Et ça peut évoluer, bien sûr, tout au long de notre vie. Donc, il y a les deux que j'ai évoquées, la logico-mathématique et puis linguistique. Et puis, il y a également l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité à rentrer en relation avec les autres, la capacité intrapersonnelle, la capacité à se comprendre. Il y a l'intelligence corporelle ou kinesthésique, tous les gens qui travaillent avec leurs mains ou qui sont très bons dans leur corps, comme les sportifs, les danseurs, etc. Il y a l'intelligence spatiale, les gens qui sont capables de se représenter notre environnement et les choses en 3D, et on a de plus en plus besoin de ce genre de personnes aussi. Et l'intelligence musicale et rythmique, tous ceux qui sont avec les sons et la musique. Et à chaque forme d'intelligence, il y a des professions qui sont associées, et en fait, le monde a vraiment besoin des talents de chacun. Si on réfléchit à ce qui nous a permis d'être là dans cette pièce maintenant, eh ben, il y a tous les gens qui ont construit ces murs, il y a les techniciens pour le son, mais pour nous, il a fallu des gens qui nous habillent, ça veut dire des stylistes, ça veut dire des gens qui ont confectionné toutes les matières qui sont nécessaires à nos vêtements, mais tous les produits cosmétiques, les gens qui nous ont coiffés, les gens qui... Il y en a tellement, et on a besoin vraiment des talents de chacun.
Isabelle, un grand, grand merci.
Je vous en
C'était
prie.
Vraiment deux émissions passionnantes.
Oui, parce que je suis passionnée.
Alors, voilà, vous l'avez compris, il faut acheter ce livre, aussi bien pour vos jeunes que pour vous-même. 30 jours pour trouver ma voie et vivre
c'est
mes
gentil,
rêves.
Merci.
Mon carnet d'orientation et GPS de vie d'Isabelle Servent, c'est aux éditions Erol. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas, Isabelle?
Oui, ça se trouve partout. Oui.
Voilà, un très bel ouvrage, 126 pages, il en coûtera 16,90 €, c'est tout à fait raisonnable. Tout devient plus ludique et facile, voilà, avec ce guide. Il est vraiment conçu pour aider les ados et les jeunes adultes, des exercices, des tests, des pistes de réflexion utiles. Voilà, et l'avenir devient plus clair,
voilà,
c'est merveilleux.
C'est pas une baguette magique, mais effectivement, ce sont des clés, et a priori, ça plaît, donc c'est déjà une bonne chose.
Voilà, alors chers auditeurs, eh bien, je vous souhaite un excellent été. On se retrouve à la rentrée. Et d'ici là, vous pouvez écouter toutes les émissions d'Itinéraire Santé en podcast sur fmplus.org. Et merci à Manu qui est à la technique.
Merci.
Au revoir Isabelle, au revoir à
Annick.
Tous.